Alléluia. Ouais, c'est Noël. Bah, bientôt, ok, d'accord. Quand je me suis reprendre tout à l'heure fortement. Mais non, c'est vrai. Bon, enfin, on a un jour de Noël. Noël, c'est quoi? C'est vrai que quand on parle de Noël, voilà. Si on fait une interview dans la rue, c'est pas tout le monde qui va dire que c'est par rapport à Jésus ou quoi. On va parler du Père Noël, on va parler du sapin de Noël, on va parler des cadeaux. Alors ça, les cadeaux, il y a tout le monde qui attend que ça. Ah ouais? Et en général, les gens, ils aiment bien, on aime bien Noël. Parce que justement, c'est le moment où on s'offre des cadeaux, où voilà, les enfants, ils sont là, ils attendent avec impatience ce jour tant attendu où je vais recevoir mon cadeau. Mais j'espère que nous, on sait que Noël, c'est un peu plus que ça. D'accord? Je pense que nous, on sait que, enfin, en tout cas, c'est un peu plus que juste les cadeaux, c'est un peu plus que juste la fête, c'est un peu plus que juste un sapin ou autre chose. Et d'ailleurs, de toute manière, je voudrais choquer personne, mais la date exacte de Noël, si on l'a cherchée, c'est pas exactement le 24, c'est même pas en hiver. Ça devrait même pas se trouver en hiver, puisque de toute manière, bon, c'est une chose qui est un peu connue, je pense, mais ben, les moutons, ils étaient dehors. D'accord? Les moutons, ils étaient dehors, c'est qu'il faisait pas froid. Et voilà, si vous allez à Bethléem et à Jérusalem, tout ça, en hiver, il fait bien froid. Il y a de la neige, c'est voilà, on y reste pas dehors tranquillement. Donc bon, si on parle de la naissance de Jésus, faudrait plutôt la situer vers peut-être avril, juin, je sais pas exactement quelle date, mais en tout cas avec des températures un petit peu plus douces. Du coup, pourquoi est-ce qu'on fait Noël? C'est pas la grande question que je veux poser ce matin, mais quand même, je me pose la question. Est-ce qu'on fête Noël juste parce que c'est une tradition? Est-ce que c'est parce que c'est la religion qui veut ça? On est chrétien, donc on va fêter Noël. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a derrière le sens de Noël? Et le vrai sens de Noël, ça s'inscrit dans le désir de Dieu de s'approcher de nous, de se rapprocher de nous, de faire quelque chose d'extraordinaire que l'homme ne peut pas faire, et de s'approcher de nous, de revenir au plus proche de son peuple, au plus proche de ses enfants. Et lorsque on parle de Noël, on parle d'un enfant, on parle de Christ, bien sûr, étant enfant. Bien sûr, nous savons que cet enfant lui est pas resté enfant, d'accord? Qu'il a grandi et qu'il a même donné sa vie pour que chacun de nous puissions être sauvés. Donner sa vie, il est mort et il est ressuscité. Et c'est pas uniquement dans le fait que Jésus soit enfant qu'on trouve le salut, qu'on trouve la joie. C'est dans le fait qu'il a accompli toute chose à la croix. Il a accompli toute chose pour que nous puissions être rapprochés de Dieu. Et le fait que Jésus ait été enfant, eh bien, c'est une promesse. C'est une promesse dans laquelle on s'inscrit. C'est une promesse par laquelle Dieu donne la promesse que les choses, que le salut s'approche. Que le salut arrive. Jésus, Yeshua, le Sauveur. Cette nouvelle naissance, cette naissance, c'était la promesse d'un sauveur. C'était la promesse du salut. Et quand on parle de ces promesses, quand Jésus-Christ est arrivé, eh ben, voilà, il pouvait y avoir tout un tas de choses qui pouvaient se passer autour. Mais le peuple n'était pas forcément dans l'attente de ce sauveur. Il y avait plein plein de choses qui s'étaient passées. Il y avait des nouveau-nés qui sont morts parce que eh ben, il y a un roi, le roi qui était là, qui lui s'est senti menacé parce que des rois mages sont venus et ont dit, mais il y a un nouveau roi qui va venir. Il y a un nouveau roi qui vient de naître. Du coup, des enfants sont morts à cause de ça. Parce qu'un roi se sentait menacé. Parce que le mal se sentait menacé. Parce que les ténèbres se sentaient menacées par la lumière. Parce que l'œuvre de Christ est une œuvre de lumière qui met en lumière les ténèbres qu'il peut y avoir en chacun de nous. Qui met en lumière le fait que nous ne sommes pas parfaits. Le fait que nous avons besoin d'un sauveur. Le fait que nous avons besoin que Christ vienne dans nos cœurs, que Christ prenne sa place et que tous les projets que nous pourrions faire, tous ces projets-là, s'ils ne sont pas dans l'œuvre de Dieu, s'ils ne sont pas dans le plan de Dieu, alors ils ont le mérite de pouvoir s'écarter. Et ils risquent de nous écarter de la voie de Dieu. Et quand Christ est arrivé, il n'est pas juste arrivé comme ça, mais des prophéties ont annoncé la venue de Christ. Les prophéties ont annoncé que quelque chose, un jour, va se passer, et la Bible nous donne des indices. C'est à nous d'avoir du discernement. Et je trouve ça extraordinaire comment Christ est arrivé, mais il n'est pas juste arrivé comme ça, sans rien, mais des prophéties ont annoncé que Christ devait venir. Des prophéties ont annoncé que le Messie devait venir, que ce Messie était un sauveur, que ce Messie devait souffrir et que ce Messie devait ressusciter. Et que bien des gens allaient regarder à cette brebis, comme il est dit dans Ésaïe 53, bien des gens allaient le regarder mais n'allaient même pas faire cas de lui. Et ça pour moi, ça me parle parce que je me dis combien de fois Dieu peut parler dans nos vies et combien de fois nous pouvons nous passer à côté. Combien de fois nous sommes susceptibles de laisser une parole passer comme ça, que Dieu voudrait nous adresser. Les rois mages suivaient un signe, une étoile. Ça peut paraître pas grand chose, mais ils suivaient une étoile dans le ciel, ils suivaient un signe. Et ils étaient attentifs à ce que les cieux racontent. Ils étaient attentifs à ce que dans le ciel, il pouvait y avoir, au mouvement qu'il pouvait y avoir. Et dans notre vie de foi, dans notre vie chrétienne, c'est pas uniquement ce qui est important, c'est pas uniquement le fait de suivre le fait. Bon, il y a Noël, il y a tout un tas d'autres fêtes. C'est pas le fait de suivre ces fêtes-là. C'est le fait d'abord et avant tout de suivre Dieu là où il veut que nous allions, là où il veut nous conduire. Tout commence par un signe. Tout commence par un signe. Je vais prendre le livre de Ésaïe. C'est un passage qui est bien connu, Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7 nous parle d'un roi, Akaz. Et ce roi Akaz, dans le contexte historique de ce passage, ce roi Akaz était en... Il y avait Syrie et Israël qui s'étaient associés pour... mener le combat contre le roi d'Assyrie, qui était une autre région. Et le roi Akaz était de Juda, et il était plus hésitant. Et il était plus hésitant parce qu'il était plutôt pro-assyrien. Ça, c'est le contexte historique. Et voilà ce qui se passe dans le livre de Ésaïe, au chapitre 7, et à partir du verset 10. L'Éternel parla de nouveau, donc il a déjà parlé auparavant, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe de l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi... le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ici, dans ce passage, nous avons une prophétie qui annonce un événement qui va se passer dans l'avenir. Le contexte de cette histoire montre que Dieu demande à Akaz, « Demande-moi un signe. Demande-moi quelque chose. » Demande-moi quelque chose. Et c'est même répété une deuxième fois, c'est demande en ta faveur un signe, demande-le. Quand il y a des répétitions, il y a une insistance. Et Akaz, lui, dans son contexte, et par rapport au contexte historique de l'époque, lui, il n'a pas envie de demander à Dieu. Et il fait une réponse plutôt hypocrite, parce qu'il dit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Quand on lit ça, on peut dire que ça peut être un signe d'humilité. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, etc., etc. Mais justement, quand on connaît le contexte, c'est Dieu lui demande de lui demander. Et Akaz, par rapport à ça, il veut suivre son propre destin. Il veut suivre ce qui l'intéresse. Lui était donc pro-assyrien, donc ça, il n'avait pas trop envie d'entendre le point de vue de Dieu par rapport à ça. Il n'avait pas trop envie d'entendre ce que Dieu voulait dire parce qu'il avait ses propres projets, parce qu'il avait sa propre tenue vis-à-vis de tout ça, et il était partagé. Parce que certains lui demandaient la coalition vis-à-vis du roi d'Assyrie, une coalition vis-à-vis du roi d'Assyrie, mais lui, il était plutôt pour ce roi-là en question. Donc il était un peu partagé. Et Dieu parle et donne par rapport à ça un signe qui va être bien plus loin, qui va être bien plus, parce qu'on est là, on est à 750 ans avant Jésus-Christ, donne un signe qui va aller bien plus loin et qui va porter jusqu'à Jésus-Christ, ce signe-là, parce qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu éventuellement être prétendantes à ce signe-là, mais elles sont pas nées d'une jeune fille. Le signe dont nous parle la Bible, c'est le signe selon lequel je ferai venir quelqu'un et il viendra et il naîtra une enfant. Voici la jeune fille sera enceinte, deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Et le problème d'Akaz, c'est que Dieu n'était pas avec lui. Le désir de Dieu, c'était de cheminer avec Akaz. Mais Akaz, lui, se tenait éloigné de Dieu. Par rapport à ses décisions, par rapport à ce qu'il aurait voulu et ce qu'il aurait souhaité. Le signe a le sens de témoignage. Il a le sens de preuve. Il parle de signe, de preuve, de miracle, de prodige. C'est la preuve par laquelle Dieu nous montre ce qu'il faut faire et il se révèle. Et dans le sens du mot hôte, donc signe, il y a ce sens d'apparaître. Le fait d'apparaître. Dieu se révèle au travers du témoignage de sa propre parole. C'est lui-même de propre parole. C'est lui-même qui donne son témoignage. Et il demande. Demande-moi un signe. Demande-moi quelque chose. Ce qui importait à Jésus, c'est que le Père rende témoignage de ses œuvres et de ses actes. Le fait que Dieu rende témoignage de lui. Donc, on va prendre le passage de Jean au chapitre 8 et au verset 13. Jean chapitre 8 au verset 13, c'est ce moment où des pharisiens viennent voir Jésus et lui disent, mais toi tu es là, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Et un peu plus loin, au verset 18, il dit, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et quand il dit ça, il fait référence à quoi? Il y a un autre passage où les disciples de Jean, je sais pas si vous voyez ça, les disciples de Jean viennent voir Jésus, et dans Matthieu 11, chapitre 11, verset 2 à 6, les disciples de Jean viennent voir Jésus et il dit, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Jean a été emprisonné, il avait parlé de celui qui devait venir, il avait signifié combien celui qui devait venir c'était Jésus. Certains de ses disciples sont même partis pour suivre Jésus. Et à la fin de sa vie, alors qu'il était emprisonné et qu'il était sur le point, parce qu'on lui a coupé la tête, donc de mourir, il envoie ses disciples pour poser cette question. Es-tu celui qui doit venir? Et Jésus leur répond et leur dit, mais regardez tout ce qui se passe autour. Il leur parle des miracles. Il leur parle des choses extraordinaires qui avaient autour, comme des signes qui ont été annoncés. Et des fois, on peut être gagné par des doutes, on peut être gagné par des inquiétudes, on peut être gagné par des peurs, par tout un tas de choses. Et à ses disciples qui ont été gagnés par les doutes, Jésus-Christ leur demande de s'attacher aux signes. Une œuvre qui ne vient pas des hommes. Une œuvre qui vient de Dieu. Une œuvre que l'homme ne peut pas conduire, que ne peut pas diriger. Et lorsque Jésus-Christ parlait, il disait, mais regardez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Le fait que Jésus fasse des miracles et des choses extraordinaires, c'était pas ça le but. C'était le fait que le Père témoignait de... Il n'y a pas juste un homme parmi vous. Celui qui est là. Et d'ailleurs, les gens étaient sensibles à ça. Mais quand même, comment un homme peut-il faire autant de miracles? Comment un simple homme peut-il faire des miracles? Parce que ça dépasse la raison. Et parce que le fait de vouloir chercher ce qui dépasse l'homme, c'est vouloir chercher aussi Dieu. Une œuvre qui ne vient pas des hommes. Et donc, on peut être pris, nous, je sais pas, à des découragements, des inquiétudes, des peurs, tout un tas de choses, des questionnements. Et quand ça peut être le cas, on est souvent plus enclin à laisser parler nos émotions, à dire mais j'en peux plus, mais où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Lorsque Christ est venu pendant 400 ans, depuis 400 ans, Dieu ne parlait plus. Christ est arrivé et depuis 400 ans, plus aucune parole, plus aucun prophète n'avait parlé de la part de Dieu. Et voilà que d'un coup, un enfant est né. Voilà que d'un coup, une prophétie s'accomplit, un signe s'accomplit, et les gens sont complètement surpris par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se passe comme ça? Il faut s'accrocher au signe. Il faut s'intéresser à ce que Dieu veut nous dire. Et des fois, on peut être dans le découragement, on peut être dans l'inquiétude, on peut être dans tout un tas de choses, mais c'est aussi le moment d'être persévérant. C'est aussi le moment de s'attacher à ce que Dieu nous a dit, aux promesses que Dieu nous donne, à la foi que Dieu nous donne. C'est aussi le moment de ne pas se laisser abattre par nos sentiments, de ne pas se laisser abattre par des conclusions trop hâtives. Mais où est Dieu? Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il ne se prononce plus, il ne parle plus, il ne dit plus rien. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Dieu se trouve là. Et la parole de Dieu dit, je suis là, près de ta bouche, près de ton cœur, près de toi. Dieu se tient près de nous, à chaque moment, à chaque instant. Dieu se tient près de nous. Mais la décision de ce que lui veut accomplir ou ne pas accomplir lui appartient. De ce que lui veut faire ou ne pas faire, ça lui appartient. Nous, ce qui nous appartient de faire, c'est de le suivre et de rester attaché à ses voies. De rester attaché à lui en toutes circonstances, en toute occasion. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas. Et ça peut être choquant de voir que la venue de Christ, une venue si importante, si extraordinaire, a fait suite à 400 ans de silence. Et des fois dans nos vies, ça peut être le cas. Il y a des temps de silence de Dieu dans lesquels nous ne pouvons pas nous fier juste à nos sens et à nos émotions. Mais nous pouvons nous attacher à la parole de Dieu. Nous pouvons nous attacher aux promesses que Dieu a faites, aux promesses que Dieu a données. Et non pas se laisser aller à tout un tas de pensées qui remettraient en question est-ce que Dieu est présent dans ma vie ou pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il est encore là? Ne pas s'attacher à ce que nos yeux voient. Nos yeux nous trompent énormément. Nos sens nous trompent énormément. Mais le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Bible, celui qui veut se révéler à nous, c'est celui qui veut dépasser nos sens. Jusqu'à lui faire confiance. Jusqu'à mettre en lui notre confiance jusque dans les ténèbres, jusque dans les moments difficiles, jusque dans les moments où tout espoir semble évanoui. Akaz avait des doutes dans ce passage dans le passage qu'on a pris tout à l'heure. Akaz avait des doutes. Et si on prend le passage un petit peu plus haut, dans Ésaïe chapitre 7, un petit peu plus haut, il y a des moments dans lesquels Akaz était troublé, était inquiet, était peut-être terrifié. Et c'était un moment où il nous est dit qu'il arrivait le temps d'Akaz, fils de Jotham, etc., roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Alors, attendez, fils de roi de Juda, de Retsin, roi de Syrie, monta avec Pécar, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Donc on vient dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Le cœur d'un roi est agité et tout le reste est agité. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz et dis-lui, au verset 4, « Sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Les moments où on voit des choses qui dans nos vies vont mal, où on sent qu'il y a des choses qui vont mal, c'est le moment de proclamer que Dieu est toujours présent dans nos vies. Quel que soit ce que je vois, quelle que soit l'impression que j'ai, le ressenti que je pourrais avoir, de proclamer avec plus de force, avec plus de conviction, je ne veux pas entendre de mensonges, je ne veux pas croire aux mensonges du diable, je veux me baser sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quels sont les signes que Dieu nous donne? Quels sont les signes que Dieu m'a déjà donnés pour ma vie? De quelle manière Dieu a déjà parlé dans ma vie? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Ça pourrait être notre cas. Où Dieu parle d'une manière particulière, des années auparavant, et on a le souvenir de tout ce que Dieu a, de ce que Dieu a accompli, on a le souvenir de miracles que Dieu a accomplis, mais aujourd'hui, on vit des moments difficiles, on vit des moments de trouble, et dans ces moments de trouble, c'est comme si on a tout oublié. Le souvenir que nous avons de ce que Dieu accomplit, que ce soit dans notre vie, que ce soit par des paroles qui viennent de la parole de Dieu, ce sont des souvenirs qu'il faut marquer comme une pierre, comme un autel dans nos vies. De sorte que l'on se souvienne de ces signes que Dieu nous donne et que l'on reste fidèle à ce que Dieu a dit. Jean chapitre 15, verset 7 nous dit « Si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Mais notez bien que ce qu'il est dit, c'est « si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous. » Ce n'est pas « si je me tiens ferme, et si j'arrive fermement », c'est « est-ce que je demeure en Jésus ?» Et lorsque le doute nous prend, peut-être nous pouvons nous poser la question « est-ce que je suis demeuré en Jésus ?» Est-ce que je n'ai pas besoin de revenir un petit peu plus proche de mon Père? Parce que c'est lui qui me donne la paix. C'est lui qui nous donne la paix. Et il ne le donne pas de manière comme ça, un petit peu, puis ensuite ça va passer. Il le donne de manière permanente. Cette paix que l'on reçoit de Dieu, c'est une paix qui est durable. Luc chapitre 11, verset 9. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » On connaît ce passage. Mais dans ce passage, il est dit « demandez ». Tout comme il a été dit à Akaz, demande-moi. Il a été dit, demandez. Et quand on demande, on pose des questions. Demandez selon Dieu, il ne s'agit pas d'abord de réclamer. Il ne s'agit pas d'abord de venir et de dire, voici quels sont mes droits. Mais d'abord et avant tout, d'interroger et de questionner Dieu dans une relation vivante et vraie. De revenir à lui s'il faut. Mais de revenir pleinement. Lorsque Christ s'est présenté à Marie et Marthe et Marie et que Lazare était mort, Marthe et Marie étaient devant la mort, devant l'impossibilité pour l'homme de faire quelque chose. Et Marie était là et elle dit, mais si... Martella, elle a dit, mais si seulement tu avais été là, si seulement Jésus avait été là, il aurait pu faire quelque chose, il aurait pu le guérir. Parce que Marthe et Marie connaissaient Jésus comme étant celui qui guérit. Elle l'avait vu faire des miracles, elle avait vu faire des choses extraordinaires. Mais elle limitait son pouvoir, elle limitait ce qui était possible. Elle pensait que ça allait jusque-là. Elle dit, si seulement tu étais venu. Elle était sûre que si Jésus était venu, il aurait pu guérir Lazare. Mais maintenant que Lazare est mort, c'est plus possible. On ne peut rien face à la mort. On ne peut rien face à ce qui est impossible. On ne peut rien face à ce silence de la mort. Et pendant 3 jours, Jésus s'est fait attendre. Lorsqu'on est venu le trouver, on lui a dit, écoute, Lazare, celui que tu aimes est mort. Jésus... La Bible nous dit que Jésus a attendu encore 2 jours avant de partir. Il aurait pu se précipiter, il aurait pu partir. Pendant ce temps-là, Marthe et Marie attendaient. Pendant ce temps-là, Marthe et Marie ne voyaient pas Jésus. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Pourquoi est-ce que le silence de sa présence est tellement pesant? Mais dans ce passage de Marthe et de Marie et de cette œuvre que Jésus a accomplie, il nous est dit clairement que Jésus, deux jours après, Jésus est parti. Il n'est pas parti sur le moment. Et nous, on voudrait souvent, quand on demande quelque chose à Dieu, on voudrait que ça parte de suite. Seigneur, je te demande quelque chose, ok, j'ai mis la pièce, je veux ma bouteille de Coca. Ou de Pepsi, ou de Fanta, peu importe. Je veux ma boisson. Et on se met des fois, devant Dieu comme si on était devant un distributeur. On met une pièce et je veux que ça s'accomplisse. Mais Dieu agit en son temps. Et la différence, c'est est-ce que nous sommes dans l'attente de Dieu ou pas? Est-ce que nos cœurs, est-ce que nos vies sont dans l'attente de Dieu? Est-ce que nous sommes à la recherche de ce signe? Est-ce que nous sommes à la recherche de cette parole de Dieu qui nous réconforte, qui nous fait du bien, mais dans lequel on voit Dieu? Et lorsque Dieu se manifeste, on l'a déjà dit plein de fois, c'est pas dans un fracas, c'est pas dans un tonnerre, c'est pas dans tout un tas de choses, c'est dans un silence, c'est dans un murmure. C'est dans quelque chose de très doux dans lequel, pour entendre, nous avons besoin de tendre l'oreille. Nous avons besoin d'être à l'écoute. Nous sommes dans une démarche, il faut être dans une démarche d'écoute et de recherche de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ parle à Marie, et Marie dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, je t'ai déjà dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ parle, alors je vais prendre le passage, peut-être pour être plus... comme ça, on va tourner un peu les pages de la Bible ou cliquer sur notre téléphone. Donc Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Lazare était mort depuis 3 jours. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien ce passage, parce qu'on voit l'attitude de Jésus devant le Père. On voit de quelle manière Jésus-Christ prie. Et ce qu'il dit, c'est, écoute, je sais que tu m'as déjà exaucé. En gros, il n'est pas dans le fait de « est-ce que tu vas m'exaucer ?» Je sais que tu vas déjà m'exaucer. Il est déjà dans l'attente, il a cette relation avec le Père qui le met dans la confiance de ce que lui va demander, ça va s'accomplir. « Père, tu m'as exaucé et j'ai parlé à cause de la foule afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc il ne s'agit pas là de voir des miracles. Jésus n'est pas en train de montrer quelque chose d'extraordinaire pour que les gens voient des miracles, voient des prodiges ou autre chose. Mais il s'agit d'être à l'écoute et dans l'attente de Dieu. Jésus a fait attendre Marthe et Marie pour qu'elles soient dans l'attente du Père. Et des fois dans nos vies, on est dans cette attente de Dieu. Et dans cette attente, il nous faut être persévérants. Le but des miracles et des prodiges, ce n'était pas que chacun se serve pour soi-même. « Oh, moi je veux une guérison » ou même juste que les vies soient changées. Le but, ce n'était pas juste ça. C'était qu'on comprenne qu'il y avait plus grand qu'un simple homme au travers de Jésus. Qu'il y avait bien plus qu'un homme, il y avait Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Dieu parmi nous. Dieu se manifestait. Et l'objectif, c'était que ceux qui étaient disposés à entendre puissent entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute. Entende. C'est-à-dire que si nous sommes dans l'attente, si nous sommes dans l'écoute, nous allons entendre ce que Dieu veut nous dire. Nous allons comprendre là où Dieu veut nous conduire. Des fois, peut-être un peu longtemps après qu'on ait posé la question. Mais si nous persévérons dans la recherche de Dieu, nous verrons sa gloire. Les gens, les contemporains de Jésus voulaient voir des miracles. Et l'objectif de la vie chrétienne, c'est pas de voir un miracle. C'est pas de voir des signes, c'est pas de voir des prodiges. C'est d'être vraiment à l'écoute de Dieu. C'est d'être vraiment dans cette attente. S'il y a un silence de Dieu, alors je me mets dans l'attente de Dieu. Alors je m'en remets à lui. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que la réponse dans ma vie, c'est Dieu. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 39. On voit ce passage où des gens viennent trouver Jésus et ils lui disent quoi ? Il lui dit, mais écoute, mais montre-nous un peu des miracles. Montre-nous un peu des choses extraordinaires. Je prends avec une seule main. Voilà. J'ai pas mis de petit post-it là-dessus. Des fois j'en mets, mais je l'avais pas mis. Matthieu chapitre 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Waouh ! Nous voudrions te voir faire un miracle. Dans Matthieu 16 aussi, il est question d'hommes qui viennent et qui lui disent, « Est-ce que tu peux pas faire un petit miracle pour nous ? Un petit prodige ?» Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Eh bien, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et par là, Jésus parle de sa mort et de sa résurrection. Il dit, vous voulez un miracle, alors vous allez en voir un, mais vous allez devoir attendre. Ça ne va pas se faire maintenant. Vous allez en voir un. Et de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le poisson, ben vous verrez le Fils de l'homme qui va rester 3 jours et 3 nuits dans la terre. Et il s'en relèvera. Et ça, c'est le signe que Jésus a donné. Il leur dit, voilà, le but, c'est pas de voir Jésus faire des miracles et des prodiges. C'est de rester chacun de nous dans l'attente de ses promesses, dans la recherche de sa présence, dans la pensée de sa présence. Dans quel état d'esprit sommes-nous lorsque nous demandons quelque chose à Dieu? Quelles sont nos motivations? Est-ce que le but c'est juste de le voir faire? Eh, hey, vas-y, montre-toi là, roule un peu des mécaniques, que je voie un petit peu. Dans cette attitude-là, ce sera peut-être plus de la tentation justement. Ce sera peut-être de cette manière qu'on va essayer de tenter Dieu. Mais l'objectif, c'est que nos vies reçoivent le témoignage de la parole de Dieu, reçoivent le témoignage de la présence de Dieu, et qu'elles le reçoivent de manière durable. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et c'est la déraison pour les païens. Parce que ce n'est pas logique. C'est un scandale pour les Juifs, parce que ce miracle-là, ce n'est pas vraiment le miracle qu'ils veulent. Et pour les Grecs, ce n'est pas de la sagesse, parce que ça défie la raison. Et la manière dont Dieu travaille et agit dans nos vies, ça défie la raison. Ce n'est pas juste le fait de venir à l'église ou de venir autre chose et de se dire, ben moi, voilà, je veux juste m'approcher de Dieu. C'est le fait d'accepter que Jésus-Christ est la pleine autorité dans nos vies. Le fait d'accepter que nos projets, tous les projets qu'on voudrait faire, si Dieu met sa lumière et qu'il transforme, qu'il dévie nos projets pour que ça aille dans son sens, qu'on soit attentif à ce que lui veut pour se laisser conduire dans ce même sens. On peut faire des projets et mais si on sent que ces projets-là défient l'autorité de Dieu, dans la volonté de Dieu, parce que peut-être il a un projet qui est bien plus grand. Moi, personnellement, je crois que si Dieu a des projets, si mes projets à moi, ils sont contrecarrés, si Dieu a des projets et qu'il veut faire ce qu'il veut, mais je dis, mais c'est pour mon bien. Qu'est-ce que Dieu peut faire de mal à ma vie? Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu peut faire de mal? Pourquoi est-ce que nous refuserions le fait que Dieu agisse dans nos vies? Le fait qu'il travaille et qu'il conduise nos vies, pourquoi est-ce que nous refuserions ça? Pourquoi est-ce que nous le laisserions emporter par notre volonté Christ qui priait, Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'échappe de moi. Ah, ça c'est sa volonté. Mais non, pas ma volonté, ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse. Et je suis touché, moi, par ces passages de la parole de Dieu où je vois combien même Christ était tenté dans sa volonté. En tant qu'homme, il était tenté, mais il avait la présence d'esprit de dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans le système judaïque, le processus de repentance s'appelle la tshuva. La tshuva, ça signifie retour ou réponse. Et quand dans les milieux juifs messianiques, on parle de Jésus comme étant la réponse. Mais toute réponse suppose des questions. Et tout retour suggère un événement, un égarement. Et nous sommes tous susceptibles de nous égarer à un moment donné ou à un autre, mais nous avons tous cette main tendue par Dieu qui nous offre de pouvoir revenir à lui. De pouvoir revenir à lui et de pouvoir trouver des réponses à nos questions. Christ est notre réponse et c'est le moyen par lequel nous pouvons revenir au Père. Toutes nos questions trouvent leur réponse en Jésus-Christ. Toutes nos questions trouvent leur réponse en Dieu. Par un enfant, Dieu nourrit l'espoir et la promesse d'un renouveau. Un renouveau qui prend tout son sens avec la résurrection, une nouvelle naissance. Une résurrection, c'est un peu comme une nouvelle naissance, non? Le fait de revenir à la vie, mais c'est une nouvelle naissance pour l'éternité. Une naissance dans laquelle l'objectif, c'est pas juste de vivre pour cette vie-là, c'est pas juste de vivre pour ces objectifs qu'on a ici-bas, mais c'est de vivre pour les objectifs du Père. C'est de vivre pour des objectifs éternels. Donc Noël, c'est l'histoire de Dieu qui voudrait vivre une relation, mais une relation d'éternité, une proximité avec nous, avec ses enfants, au-delà de toutes les contraintes que l'homme peut se mettre, au-delà de toutes les barrières, les structures mentales qu'on peut avoir, c'est celui qui agit dans l'impossible de l'homme. Et le fait que la naissance de Christ est aussi extraordinaire et aussi formidable, c'est parce qu'elle travaille et qu'elle agit dans l'impossible de l'homme. Et moi, je suis personnellement content quand je me dis il y a une chose dans laquelle je ne peux pas agir. Ce sont les circonstances de ma vie. On ne peut pas travailler dans les circonstances de nos vies. On ne peut pas travailler dans le hasard, entre guillemets, de nos vies. C'est justement là que Dieu est en mesure de travailler. C'est justement là que Dieu est en mesure de nous surprendre et de nous amener à comprendre qu'il est présent. Et des fois, on parle, on voit des trucs, « Waouh, c'est extraordinaire ce qui s'est passé !»« Ouais, mais c'est le hasard, bon, ça arrivait comme ça. » Dieu est présent dans nos vies et c'est à nous d'être attentifs là où il agit, là où il travaille, là où ce qu'il fait, les moindres petits détails, à ne pas négliger qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, qu'il s'agit de l'œuvre du Père. Un petit enfant, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui est devenu énorme. Énorme, par lequel nos vies ont été sauvées, par lequel nos vies peuvent s'approcher du Père. L'objectif de cet enfant, c'était de donner sa vie. Non seulement il est venu au monde, mais il est venu au monde pour donner sa vie par laquelle le Père lui a rendu cette vie-là, et par lequel nous sommes chacun sauvés et nous trouvons le salut. Dieu est venu, Christ est venu, non pas pour sauver des gens bien portants, comme le dit la Bible, mais pour sauver des pécheurs, pour guérir des pécheurs, pour libérer des cœurs brisés, pour amener les ténèbres à la lumière et que nos vies qui sont bancales, qui peuvent être bancales, puissent être redressées, puissent être remises en ordre, puissent être restaurées, pour que cette vie et cette paix que nous recevons, nous la recevions par Christ, cette paix qu'il nous donne de manière constante et de manière permanente. La paix que personne ne peut donner. Que personne ne peut donner si ce n'est lui. Et c'est ça l'œuvre de Christ, c'est ça l'œuvre de Noël. Ça ne veut pas dire que moi, mes enfants, ils recevront des cadeaux, c'est bien. Ils sont contents. Ils seront contents. Mais si c'est juste le cadeau, si c'est juste le fait de s'échanger le cadeau sans comprendre, sans voir le sens qu'il y a derrière, sans voir le fait que cette naissance-là, c'était ce signe qui a été donné par lequel les gens étaient appelés à être attentifs à ce que Dieu fait pour l'œuvre bien plus grande et bien plus extraordinaire qui allait se manifester par la suite. Alors c'est là que nous pouvons nous réjouir. C'est là que nous pouvons nous réjouir de cette naissance. Bon, bien sûr, c'est à Noël, c'est le 24 décembre, 24 au 25. Donc c'est très bien, c'est très bien aussi comme ça. Mais au-delà de ça, c'est le fait que chaque jour, c'est un jour par lequel nous pouvons célébrer la victoire de Christ dans nos vies, la victoire de Dieu dans nos vies et les promesses qu'il veut manifester. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Parce que le sens que tu veux donner aux choses, c'est ça qui a de l'importance. Merci pour ces temps où nous allons peut-être nous réunir en famille et nous retrouver avec des proches pour peut-être avoir ce temps où nous allons avoir peut-être des opportunités, soit pour témoigner, parler des choses que toi tu fais, Seigneur, du vrai sens, Seigneur, de la vie en Dieu, de la vie en Christ. Seigneur, et je te remercie, Seigneur, que la lumière a éclairé nos vies, que la lumière a éclairé nos pas, pour que nous puissions marcher droitement et de manière juste devant toi, pour que le péché qui se tient à notre porte se tienne aussi écarté de nos vies, pour que les œuvres du mal se tiennent écartées de nos vies. Même si les ténèbres ne sont jamais très loin, Seigneur, c'est ta lumière qui conduit nos pas. Et dans la lumière, les ténèbres ne se tiennent pas et ne peuvent pas se tenir. Merci pour l'œuvre que tu accomplis, Seigneur, pour l'œuvre que tu as déjà accomplie, Seigneur, et je te remercie de l'avoir déjà accomplie. Je te remercie de la foi que tu donnes à chacun d'entre nous, du renouvellement, Seigneur, de la vie que tu mets, Seigneur, en nous, de ce renouveau, Seigneur, par lequel, Seigneur, tu nous donnes de nous présenter devant toi comme des enfants qui te connaissent et qui te cherchent sans cesse. Donne-nous d'être dans l'attente, Seigneur, de toi, Seigneur, et de voir la gloire être manifesté, Seigneur, dans nos vies, de nous réjouir, Seigneur, de cette présence, Seigneur, par laquelle tu réchauffes nos vies, tu réchauffes nos cœurs et tu nous donnes la paix. Au nom de Jésus. Amen.